Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, nous parlons de santé, d'éducation sexuelle, de parcours migratoire et de droits sexuels. En effet, un récent article de Santé sexuelle suisse intitulé « Parcours migratoire, la santé sexuelle négligée » a été publié sur le site de REISO, la revue d'information sociale. Il montre certaines lacunes du système de santé sexuelle qui touchent notamment les femmes et les jeunes femmes requérantes d'asile. Daniel, c'est toi qui t'es penché sur cette question. Il semble que les droits sexuels s'inscrivent dans la lignée des droits humains.
Alors oui. J'ignorais que les droits sexuels font partie des droits humains fondamentaux. Mmh. Le respect de ces droits implique notamment le droit à l'intégrité corporelle, le droit à l'information et le droit à l'éducation sexuelle, et aussi le droit d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Les États signataires de la Convention des droits de l'homme ont donc l'obligation de respecter, de protéger et de garantir ces droits sexuels. Convention signée par la Suisse.
En Suisse, quel est l'organisme qui s'occupe de répondre aux besoins des populations les plus fragilisées ?
Santé sexuelle suisse, c'est l'organisation fêtière suisse qui regroupe les centres de consultation et de formation pour la santé sexuelle, ainsi que les associations professionnelles de ces domaines. La principale mission de cet organisme créé en 1993 est de permettre à toute personne vivant en Suisse d'accéder de manière égalitaire aux prestations de santé sexuelle et reproductive. Et Santé sexuelle suisse accorde une attention particulière aux personnes issues de l'immigration et souhaite, par diverses mesures, améliorer ces prochaines années l'accès aux informations et aux prestations en matière de santé sexuelle et reproductive pour ces personnes.
Des mesures que nous allons découvrir avec notre invitée Barbara Berger de Santé sexuelle suisse de Lausanne. Bonsoir Barbara Berger.
Bonsoir.
Vous êtes en direct par téléphone avec nous ce soir. Vous avez fait des études de sciences politiques, vous travaillez pour UNIA et puis vous occupez le poste de secrétaire général des femmes socialistes à Berne pendant 7 ans. Et en 2014, vous reprenez la direction de Santé sexuelle suisse. Vous êtes d'ailleurs reconnue pour être une femme engagée, animée par des valeurs de justice et d'égalité. Alors Barbara Berger, qu'est-ce qui vous a motivée à reprendre ce poste en 2014 ?
La motivation, pardon, je vous écoute très mal, je suis désolée, mais j'essaie quand même à vous parler de ma motivation. J'ai fait connaissance avec Santé sexuelle suisse, alors l'organisation que vous mentionnez, juste maintenant on vous avait présenté, pendant la campagne contre l'initiative qui a voulu que la prestation de l'accès à l'avortement sera pifée de la LAMAL, alors que chaque personne, veut dire chaque femme, qui fait une interruption de grossesse pendant les premiers 12 mois, doit payer, pendant les premières 12 semaines, pardon, doit la payer elle-même. C'était ça l'initiative et c'était bien sûr une grande campagne contre pour que vraiment les prestations de l'accès à l'interruption de grossesse restent dans l'assurance de base pour que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et pendant ces temps-là, j'ai fait connaissance, je me suis rendu compte qu'il y a l'éducation sexuelle là-dedans, qu'il y a les centres de santé sexuelle, que je connaissais aussi moi-même, les centres de santé sexuelle, mais par rapport à l'éducation sexuelle, par exemple, à l'école, moi, j'ai jamais eu l'éducation sexuelle à l'école moi-même, par exemple, et je trouvais ça vraiment très intéressant, j'ai lié aux droits humains, notamment. Et ça, comme ça, j'ai découvert une organisation et j'ai toujours voulu être plus proche aux droits humains, vraiment sur ces bases-là. Et c'est pour cela que c'était évident après quand l'occasion se présentait que je change et je commence mon travail chez Santé sexuelle suisse. Aussi, car j'ai travaillé dans la politique avant. Et c'était toujours très important à savoir que tant qu'il y a un gouvernement nationaliste, disons, la première chose qu'ils font, c'est effectivement limiter les droits de femmes, notamment aussi le droit à l'accès à l'interruption de grossesse, ce qu'on voit dans différents exemples autour du monde maintenant. Et c'est pour cela que ces droits-là sont vraiment très importants pour l'égalité, pour les femmes, mais évidemment aussi pour tout être humain.
Barbara ? Dans quelle mesure est-ce que la Suisse, en fait, respecte les droits sexuels ?
Pardon, je vous...
Dans quelle mesure, comment se situe la Suisse en matière de droits sexuels ?
Par rapport au respect des droits sexuels.
Exact.
Oui. Écoutez, c'est dans ce sens, en principe, c'est pas une situation qui est désastreuse, on pourrait dire, pas du tout. Alors, il y a beaucoup des lois qui sont effectivement, ou des droits qui sont effectivement respectés. Il y a des problèmes dans l'éducation sexuelle parce que c'est au niveau cantonal que c'est mis en œuvre et c'est effectivement c'est chaque canton ou commune qui fait quelque chose d'autre. Et il y a aussi par rapport à l'accès à la santé sexuelle pour des migrants, des migrantes, qu'il y a effectivement encore des défis et des lacunes.
Suite à ces lacunes, vous avez été mandaté pour faire justement une étude en 2016. Qu'est-ce qu'il ressort exactement de cette analyse ?
Oui. Alors l'étude qu'on a menée, c'était pour la journée de la contraception et ce qui nous intéressait, c'était vraiment à savoir comment est l'accès des requérantes et des requérants d'asile à la contraception. Et parce que au début 2016, on a eu la réponse de nos centres, hein, nous, qui disaient que on a vraiment plus de demandes des centres, des requérants et requérantes d'asile, d'avoir du soutien, de l'aide. Et c'est pour cela qu'on a mené cette enquête après pour la journée de la contraception.
Mais justement, Barbara, en lisant cette étude, on se rend compte que l'accès en fait à la contraception est un privilège en Suisse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Oui, ouais. Alors, le truc est comme ça. Pour chaque personne en Suisse, l'accès à la contraception est effectivement une affaire, on pourrait aussi dire une affaire privée dans ce sens, parce que c'est pas écrit dans la main, non. Alors ça veut dire que chaque personne doit s'en occuper soi-même.
Oui,
ça,
effectivement,
c'est le premier défi.
Barbara Berger, effectivement, les pilules contraceptives ne sont pas remboursées par la main et toutes les autres protections ne le sont pas. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par cet accès généralisé?
Pardon, j'ai rien écouté, je suis désolée, hein. c'est un peu difficile. Hein.
On va voir avec la technique pour améliorer un petit peu la qualité. Non, je vous demandais, vous disiez que les prestations sont accessibles à tous, mais pourtant on le sait avec la LAMAL, les pilules contraceptives ou tous les moyens de contraception ne sont pas pris en charge.
On a la LAMAL, la contraception n'est pas couverte, hein. c'est comme ça, c'est compris comme une responsabilité privée, c'est pas couvert par la LAMAL. Alors il y a, la LAMAL couvre après une interruption de grossesse, par exemple, mais tout ce qui concerne la prévention dans ce sens, et ça, c'est aussi vu comme la contraception n'est pas couverte. Alors aussi, par exemple, pour les requérants, requérants d'asile, ils sont aussi, leur accès au système de la santé est couvert par l'assurance de base, par la LAMAL. Et c'est ça qui pose le problème après avec la contraception. Ça veut dire que la contraception n'est pas inclue. Alors, ça veut dire que ça pose des problèmes pas seulement pour les requérants, requérants d'asile, pour les personnes des migrants, des migrantes, mais pour chaque personne avec un budget un peu limité, par exemple, avec statut économique qui n'est pas très fort, ça pose un problème parce qu'il y a toujours des autres priorités.
Mais Barbara, vous soulignez aussi dans cette étude le problème des femmes requérantes qui vivent dans des centres et à quand la révolution en fait des préservatifs féminins ?
Ah, excusez-moi, c'est vraiment...
Je disais, vous soulignez dans votre étude que les femmes qui sont dans les centres justement sont confrontées à ce problème parce que l'offre n'est pas la même d'un canton à l'autre. Et je disais,
oui,
à quand la révolution des préservatifs féminins dans les centres pour les femmes ?
Oui, c'est ça. Alors... C'est comme vous dites, Daniel, c'est effectivement comme ça. Il y a vraiment, ça diffère d'un canton à l'autre. Ça veut dire que parfois, il y a dans les centres d'asile, il y a les préservatives, mais il y a quasiment jamais les préservatives féminines. C'est par rapport à notre enquête qu'on a fait, c'est seulement au canton de Jura que les préservatifs féminins sont disponibles. Et on parle de préservatifs féminins parce que c'est un outil mécanique qui donne aussi, qui laisse aussi, disons, un petit peu la sécurité, la contrôle chez les femmes. C'est à cause de ça que le préservatif féminin est aussi tellement important. Bien sûr, il y a des préservatives normales, il y a un peu partout dans les centres ou pour un prix très réduit. Et après, il faut faire un rendez-vous chez un gynécologue pour avoir plus d'accès à des autres moyens de contraception. Parfois aussi, c'est limité à la pilule encore ou des stérilets. Ça dépend vraiment, c'est vraiment très hétérogène. Ça dépend d'un canton à l'autre momentanément. Le défi aussi dans ces questions-là, et comme avec les futurs centres fédéraux, de l'asile. C'est aussi là-bas, c'est pour nous, c'est vraiment un défi d'établir une structure qui donne le même accès à tout le monde. Mais ça, c'est effectivement un défi qu'on est encore en train
de longue haleine,
en train de nous engager.
Dans quelle mesure le parcours migratoire de ces femmes les rend plus fragiles face aux questions de santé sexuelle ?
Bon, un parcours migratoire, il y a différents aspects. Si vous prenez, par exemple, les requérants d'asile, ça c'est très clair, la fuite elle-même est déjà disons, une catastrophe. Alors, c'est pas très clair s'il y a encore de l'abus sexuel, s'il y a des choses comme ça. Alors, c'est très important aussi d'avoir une sorte de sécurité avec une contraception qui est accessible. Ça, c'est par exemple la situation aussi dans les centres.
Mais là,
Pour les migrantes, là-bas, ça pose aussi la question, est-ce que l'accès est accessible parce que, est-ce que les informations qui sont données sont compréhensibles? Est-ce qu'il n'y a pas, cette personne a encore besoin que c'est traduit dans une autre langue, qu'il y a des interprétations, voilà. Ça, c'est un grand défi aussi de mettre les informations en ligne, par exemple, pour nous, dans plusieurs langues. C'est pour cela qu'on a différents outils de base. Qui sont faits dans plus que 10 langues, par Internet, par des dépliants, des brochures. Ça, c'est très important aussi pour qu'il y ait un vrai accès. Et après, alors ce sont les informations qui sont primordiales, et puis après, vraiment l'accès aux outils, effectivement, à la fin.
Barbara, on parle beaucoup de contraception, mais dans quel domaine se dessinent les principaux besoins de ces femmes ? Par rapport à leur histoire, leur parcours.
Oui, vous voulez me dire dans un sens un peu, c'est pas tellement la contraception.
Il y a d'autres problèmes qui sont tus.
Bien sûr. Écoutez, la contraception, de savoir, de décider soi-même si on veut tomber enceinte ou non est un des trois fondamentaux pour aussi la santé sexuelle et les droits sexuels. Alors, de décider vraiment soi-même d'avoir un enfant ou non est un des trois vraiment fondamentaux. C'est pour cela que cette question aussi est vraiment importante. Bien sûr, il y a dans une phase où quelqu'un doit fuir de son pays après qu'elles arrivent ici en Suisse. Bien sûr, il y a des questions aussi qui sont plus importantes. Mais quand même, après de tomber enceinte, sans vouloir tomber enceinte, et après une catastrophe de plus.
Tout à fait.
C'est pour cela que c'est vraiment un droit fondamental que chaque femme décide elle-même si elle veut tomber enceinte ou non, et ça dans n'importe quelle situation de vie, dans n'importe quel pays, avec n'importe quel statut comme réfugiée ou non.
Qu'est-ce qui manque actuellement pour mieux accompagner ces femmes issues de l'immigration, en sachant que l'offre d'un canton à l'autre est hétérogène ? Vous expliquez qu'effectivement des ONG en fait offrent des prestations, il y a également en fait des acteurs institutionnels qui sont regroupés en fait dans différents organes qui permettent de suivre ces femmes, mais le bât blesse, que l'on veuille ou pas, je veux dire qu'on soit en Suisse allemande ou dans le canton de Vaud, il y a des problématiques.
Oui, excusez-moi, c'est vraiment c'est embêtant, mais j'ai pas compris votre question. C'est vraiment un problème technique, je crois. Je suis désolée.
Pas de souci, on va essayer de régler la situation. Daniel, vous demandez qu'est-ce qui manque actuellement pour mieux accompagner ces femmes de migration ? Quelles sont les mesures ?
Oui, d'accord. Alors, vous parlez des centres de requérantes d'asile ?
Absolument.
Absolument, oui. Alors, ce qui manque, c'est effectivement, tout d'abord, comme j'ai déjà dit, vraiment un accès harmonisé à la contraception, un accès harmonisé aussi à l'information déjà, alors dans plusieurs langues, dans une façon aussi qui n'est pas moralisateur dans ce sens, mais qui vraiment donne des informations. Et en plus, après, il y a aussi également, il y a un besoin de formation des personnes accompagnant les requérants et les requérants d'asile, soit au niveau bénévole, soit aussi au niveau professionnel dans les centres. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de parler de la sexualité, de la santé sexuelle. Et ça on voit aussi, c'est pour cela qu'il y avait aussi au début 2016 cette demande envers les centres de santé sexuelle d'accompagner effectivement les gens qui travaillent dans les centres.
Barbara, une dernière question pour conclure. Quelle est votre marge de manœuvre quand on sait ô combien il est difficile de parler de son intimité et de soi, et en sachant que ces femmes viennent de cultures où certains sujets peuvent être tabous?
Ouais. Bon, la marge de manœuvre, c'est vraiment fournir des informations qui sont aussi dans ce sens et aussi faire des lieux de rencontre, créer des lieux de rencontre pour effectivement parler. Parce que même s'il y a des différentes façons à parler, mais ça, au fond, ça touche tout le monde. Et c'est là-bas qu'il y a une porte d'entrée.
On l'aura bien compris, hein, le résultat de la dernière enquête réalisée en 2016 par Santé sexuelle Suisse sur les femmes migrantes montre des lacunes notoires, hein, dans ce domaine. Or, les questions de santé sexuelle et reproductive jouent un rôle essentiel dans l'état de santé physique et psychologique de cette population. Merci beaucoup, Barbara Berger.
Merci beaucoup à vous et très bonne soirée.
Très bonne soirée à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de Santé sexuelle Suisse. Danielle, pour conclure, ces femmes auraient besoin d'une attention particulière. On l'a compris dans cet entretien.
En effet, Fabien, surtout les femmes requérantes d'asile. Mariage forcé, mutilation génitale, exploitation sexuelle sont autant de facteurs qui les poussent à fuir. Il paraît urgent dans ce contexte de prendre en compte leur santé et de mettre en place des procédures pour mieux les accompagner. Et c'est justement dans cette perspective que Santé sexuelle Suisse souhaite, par diverses mesures, améliorer ces prochaines années l'accès aux informations et aux prestations en matière de santé sexuelle et reproductive pour ces personnes.
Un gros sujet, effectivement, avec encore un petit peu de travail. Merci beaucoup, Danielle, pour la présentation et la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez redécouvrir et réécouter avec tous les liens sur notre site www.django.fm. Un petit peu de musique avec Sting et cette chanson Fragile.